Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie de Mélina Lopez-Nadeau et d'André-Jean Rouleau, comme à chaque semaine.
Eh oui, bonjour.
Bonjour.
Et on salue évidemment nos auditeurs et ceux qui se joignent à nous pour ce Cinébrunch, qui est une émission, rappelons-le, un magazine de sur le cinéma, la critique de films, bref, les sorties, un peu de tout. Et cette semaine, on va critiquer pour vous un certain nombre de films, dont en fait une critique commune du film Le répertoire des villes disparues, film québécois, qu'on va critiquer tous ensemble en deuxième demi-heure de cette édition, de cette émission. Et sinon, quelques nouvelles pour commencer. Mélina.
Oui, donc moi, j'ai envie de vous parler durant les Grammys Awards qui ont eu lieu le 10 février, donc il y a deux semaines. Ils ont, en fait, Disney a sorti la bande-annonce du film Aladdin, qui, donc, on sait, on se souvient, va être fait en prise de vue réelle, qui va sortir au mois de mai. Donc, pour la première fois, en fait, on voit Will Smith, parce que c'est lui qui interprète le génie dans Aladdin. On le voit tout en bleu, là, vraiment comme le personnage va être. Et là, il y a eu plusieurs réactions sur Internet. Les fans sont déchaînés. Les gens n'ont pas aimé le Will Smith en bleu.
Ah bon?
Il y a eu plusieurs memes, plusieurs Photoshop qui ont eu lieu. On a vu le schtroumpf fâché qui regardait Will Smith en Aladdin.
Mais Aladdin, il a toujours été bleu. Dans les.
Oui, mais on n'aime pas comment ça a été rendu. Ouais. Okay, je pense que c'est tout ça. On voit aussi, vous savez, Will Smith interprétait à une certaine époque le Fresh Prince of Bel-Air. Mm-hmm. Fait que là, on voit, ils ont fait aussi dans Photoshop un genre d'hybride entre les deux avec la casquette. Donc, ouais.
Est-ce que ça pourrait pas être interprété comme du racisme, ça, par exemple? On aime les noirs, mais on les aime pas bleus.
C'est particulier.
Donc, la réponse a pas été très positive sur les internets, mais c'est très drôle à voir. Donc, mais on attend quand même le film, les gens, pour aller voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, ça l'augure pas très bien pour le remake de Aladdin.
Oui, déjà qu'en plus, il y a eu des problèmes au niveau de la réalisation. Oui. Ils ont changé de réalisateur et tout ça pendant le projet. Ça va pas très bien pour
ça. Il y a eu des controverses durant le tournage aussi.
Le film n'est pas tenu seulement par le génie. Là. On s'entend que c'était l'effet comique la du film, aussi. Mais à un moment donné, il faut passer. Ouais, ben, oui.
La lampe tient le génie, en fait.
C'est un rôle secondaire, là, normalement.
Oui, mais on dit que personne ne pourra remplacer Robin Williams qui faisait la voix du génie. À la base. Là, Will Smith a dit « Je peux pas reprendre le rôle et refaire ce que lui a fait, donc je vais le faire à ma façon. Mm-hmm. » Et donc là, on n'est pas trop sûr de ce que ça va donner. Ben oui, mais pauvre Will Smith, hein, on va voir ce que ça va.
Ah oui, il n'est pas chanceux dans ses derniers films.
Mai 2019, donc ça s'en vient. On va vous en reparler définitivement à Cinébrunch. Ben,
écoute, sûrement une critique commune, sans doute. Merci beaucoup, Mélina.
Merci. Effectivement, moi aussi, je reviens dans... Si je peux me permettre de prendre la parole, je reviens un peu dans le temps, c'est-à-dire le 29 mai 2018. Bon, ça nous ramène même avant l'été, hein, ce qui est un peu choquant. Je vous le donne. Cela dit, c'est parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça. C'est 14 prix Iris qui ont été remis, donc ce fameux soir du 29 mai, au Gala des artisans Québec Cinéma. Donc, une soirée rythmée, placée sous le signe de l'humour et de la décontraction, bien sûr, qui a été quand même forte en émotion, hein. Bien sûr, durant la soirée, la fameuse directrice générale de Québec Cinéma, qui est un site sur lequel il y a beaucoup, beaucoup d'informations.
Oui, tu nous en avais parlé une fois, je pense.
Ben moi, je tricote là-dessus à chaque semaine parce que je trouve que c'est très intéressant. C'est très ciblé aussi, bien sûr. À cette époque, j'en reviens là, le 29 mai, Mademoiselle Ségolène Roederer. Excusez-moi.
Je pensais que j'allais dire Ségolène Royal.
Ben, c'est tout ce qu'on pense, hein, mais oui. Non, Ségolène appartient aussi au nom de la dame Roederer, donc qui est la directrice générale de Québec Cinéma, qui évoquait les disparus de l'année, finalement. Donc, dans une espèce de... elle les a incrustés dans l'œuvre, dans le chef-d'œuvre « Au clair de la lune » d'André Forcier.
Le bon vieux « Au clair de la lune » classique. Hein?
Oui, ben oui, et voilà. Écoute, dans les faits, excuse-moi, je suis un peu perturbé là par les événements, mais donc...
avec parce que ton téléphone a vibré, c'est ça.
Voilà, écoutez, il y a certains films qui ont pris la vedette, entre autres avec ces cinq iris, « Les affamés » de Robin Aubert, hein, qui a marqué la soirée de ce 29 mai, je le répète, et qui a passé un peu juste devant le drame historique Hochelaga, Terre des âmes, de François Girard, qui en a reçu 4, lui. Moi, je voulais en parler parce que c'est beau, les films, on parle beaucoup des films, mais on oublie beaucoup les preneurs de son, les maquilleurs, les coiffeurs.
Toute l'équipe technique derrière.
L'équipe de... C'est ça, la direction de la photographie aussi, qui prend... qui est quand même importante. Moi, j'en parle souvent, en tout cas, dans mes critiques de films. Je ne vous ferai pas une lecture exhaustive des différents prix qui ont été donnés, parce que c'est assez phénoménal. Mais rappelez-vous que, entre autres, en fait, Hochelaga, Terre des âmes et Les Affamés ont vraiment marqué l'année 2018 dans ce petit gala-là. Ceux qui ont manqué, comme moi et comme plusieurs d'entre vous, la dite soirée, bien, vous pourrez le revoir ou avoir la possibilité de vous remettre ça tout en bouche le 3 juin à 18h sur RTV, bien sûr.
OK, donc ça a été capté, ça va être diffusé. Là,
oui, et puis si vous avez besoin de plus d'informations, ben allez-y, québeccinéma.ca. Vous pouvez aller vous rincer l'œil et ramasser un peu plus d'informations là-dessus.
Ben merci beaucoup, André-Jean.
Un plaisir.
De mon côté, je vais vous parler rapidement de Netflix. En fait, j'en parle souvent, mais là, en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que le géant de la vidéo sur demande a annoncé l'ouverture d'un centre de production au Canada, à Toronto précisément, où il y a déjà énormément de productions cinématographiques. C'est la capitale du cinéma au Canada. Netflix louerait 8 studios et des espaces à bureaux là-bas pour un total de je ne sais plus combien de mètres carrés. Mais c'est assez impressionnant et on espère évidemment que ça va motiver certains réalisateurs locaux et d'ailleurs à aller produire des choses pour Netflix. Aussi, toujours dans le bain de Netflix, mais plutôt chez son concurrent Amazon Prime Vidéo qui tente de se frayer une place à côté donc, de Netflix, ben, Amazon Prime a annoncé qu'il va produire 30 films par année à compter de l'année prochaine. Et on verra, en fait, c'est quand même énorme, 30 films par année.
Quand même, oui.
Donc, 30 productions cinématographiques. On ne parle pas de séries. Et on verra aussi comment Disney et Apple vont réagir parce qu'Apple et Disney ont maintenant leur plateforme. Ben, en fait, presque. Donc, voilà. Alors, à suivre. Voici maintenant votre Cinébrunch. Mélina, tu es allée voir le film français Pupille.
Oui, le film français Pupille, qui a été écrit et réalisé par Jeanne Henry. Ça met en vedette Sandrine Kiberlain, Gilles Lelouch et Élodie Boucher. Donc, on suit l'histoire du petit Théo, qui est mis à l'adoption dès sa naissance, qui sera recueilli par Jean, un assistant familial, jusqu'à temps qu'une famille soit choisie pour l'adopter. De son côté, ça fait presque 9 ans que Alice fait des démarches afin d'adopter un enfant, puisqu'elle ne peut pas en avoir. Donc, on va aller écouter tout de suite la bande-annonce.
Moi, ça m'a pris un peu de temps avant de pouvoir l'envisager.
D'accord.
Enfin, d'accepter que j'aurai jamais d'enfant à moi.
Un bon candidat à l'adoption, c'est pas quelqu'un qui a rien vécu de douloureux. Dans la vie, on a tous des champs de mine et des champs de fleurs. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez réussi à déminer votre champ.
Bonjour, je suis assistante sociale.
Je veux pas le garder.
Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargé de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi.
T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'es un super mec.
Donc évidemment, il s'adressait au bébé.
Effectivement. Donc, d'entrée de jeu, je vous dirais, le film Pupille réussit à 100% son pari, selon moi. Et ma critique du film pourrait se résumer en un seul mot, ce serait le mot authenticité. Donc, c'est une fiction qui a l'authenticité d'un documentaire. Je continue encore d'avoir de la difficulté à croire que c'est une fiction, parce que tout le long du film, je devais me rappeler qu'on était dans une fiction et non dans un documentaire.
Parce que les acteurs, ils jouent vraiment vrai ou parce que l'histoire... Est...
Parce que pour un ensemble de raisons, en fait, on aborde vraiment, on amène le sujet, on voit les perspectives de tout le monde. On a voulu vraiment faire un film sur l'adoption d'un pupille en France. Donc, il y a un concept en France, en fait, c'est l'accouchement sous X. Donc, c'est la possibilité pour une femme d'abandonner son nouveau-né au service de l'État et de demeurer anonyme aux yeux de la société. Donc, après l'accouchement, l'enfant est remis au service de l'aide sociale à l'enfance. L'abandon de l'enfant demeure provisoire pendant 2 mois après l'accouchement. Donc, c'est le délai qui est accordé à la mère si elle décide de revenir sur sa décision et de reconnaître l'enfant.
Ah oui.
Donc, durant cette période de 2 mois, l'enfant n'est pas adoptable. Donc, il va être pris en charge par un assistant social. Ici, après 2 mois, la mère n'a pas réclamé son enfant. En fait, là, il devient un pupille de l'État. Donc, il a toujours été un pupille dans l'État, en fait. Il est sous la responsabilité de l'État. Mais là, il devient possible pour une famille de l'adopter.
Hey, c'est intense.
Oui, c'est un concept qui n'est pas dans tous les pays. C'est vraiment en France. Donc, on a voulu vraiment faire un film qui traite de ça. Donc, on est dans un sujet qui est très authentique, comme je le disais tantôt. Et aussi, il faut savoir, les performances des acteurs sont carrément parfaites. Je me demandais qu'est-ce qui rend que le film est autant authentique. Ouais, premièrement, les performances des acteurs. Donc, comme je disais, elles sont tellement parfaites que ça rend ça difficile de croire qu'on est dans une fiction. Tout est extrêmement crédible et nuancé juste à la perfection. Donc, on est directement sur la ligne. Donc, ça, c'est vraiment un bijou dans ce sens-là. L'angle choisi également pour aborder le thème de l'adoption est parfait. Tout est dans les nuances, tout est dans les subtilités. On ne tombe pas dans les clichés, on ne tombe pas dans la facilité. On est vraiment dans le réel et c'est ce qui fait en sorte que j'avais tout le temps l'impression qu'on était vraiment dans un documentaire. Et il y a aussi la question du bébé. Et là, je vais prendre un petit moment pour parler du fameux bébé Théo. Parce que, faut savoir que ce n'est pas facile de tourner avec un bébé. Et là, la réalisatrice a vraiment réussi son pari. Elle a vraiment réussi à montrer le bébé, à montrer les réactions du bébé, à montrer ses absences de réactions. Et ça, c'est vraiment pas un pari facile. Parce que les bébés, ils s'en fichent complètement d'être sur un tournage. Ils s'en fichent complètement qu'ils soient le meilleur réalisateur du monde. Non. Ils font leur vie. Ils font leur vie de bébé. Donc souvent, pour pallier au fait qu'aucun bébé n'est un acteur, on va souvent voir les bébés sous forme d'inserts. Donc par exemple, on va voir le père ou la mère qui tient son bébé de dos, donc on voit pas la face du bébé, donc généralement c'est une poupée qui est là. Désolée de gâcher.
tous mes rêves brisés.
C'est ça.
Parce qu'il faut que je voyais un enfant dans les films.
Souvent c'est ça, souvent on les voit pas et ensuite on va avoir un insert du bébé, un gros plan du bébé où on va pouvoir avoir sa réaction. Mais là, dans ce film-là, c'est pas ça. On voit beaucoup de plans d'ensemble, on voit les réactions du bébé qui interagit vraiment avec la personne. Donc ça demande une patience incroyable lors du tournage.
Des prises et des prises.
Oui, et d'attendre que le bébé soit prêt, soit disposé, soit vraiment...
Oui, puis en plus, je pense que les bébés n'ont pas le droit de travailler plus que tant d'heures par jour.
C'est extrêmement limité,
très,
oui.
Très, très limité.
Il y a le syndicat des bébés, effectivement.
Ouais. Ah oui, non, c'est fort. Hein,
je
ne
connais
fort,
pas
ouais.
Exactement les lois en France par rapport à ça, mais au Québec, je pense que c'est minimum 3 mois pour un bébé. Donc, quand les bébés sont naissants, ils ne sont pas vraiment naissants.
Ouais,
et c'est 15 minutes, je pense, par heure ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas en France qu'est-ce qu'il y en a, mais oui, ça requiert beaucoup de patience. Et là, on sentait vraiment qu'il y avait une connexion entre les acteurs et le bébé, donc ce qui contribue encore plus à l'ambiance documentaire du film. Et il y a un plan qui m'a beaucoup touchée, en fait, c'est quand le petit bébé, supposément naissant, en tout cas, on s'entend qu'il est très, très jeune, et il a le hockey carrément. Alors, le bébé a le hockey.
Et on joue avec ça, finalement.
Et on voit le bébé qui a le hockey. Et c'est le genre de choses que tu peux pas planifier.
Non.
Non, mais ça brise là, justement le principe de la fiction. Là,
exactement.
Fait que tu rentres dans le truc,
t'es dans l'authentique.
Il y a clairement une part d'improvisation dans dans ce qui a été capté.
Clairement.
Et ça a été utilisé dans le scénario. Là.
Tout ça a été extrêmement bien encadré. Les acteurs, je pense, se sont vraiment donnés à fond pour justement rentrer dans ces moments-là, se servir de ces moments-là où le bébé décide de coopérer. Il faut que l'acteur soit prêt et soit bon dans cette scène-là parce que le bébé ne va pas le refaire nécessairement après. Donc, les acteurs sont vraiment très bons. Ça contribue beaucoup à l'ambiance que je vous dirais qui est très authentique du film. Et il y a aussi l'ambiance sonore. Ça contribue à l'authenticité par l'absence de musique. Je pense qu'il y a seulement une chanson dans le film qui est à la fin. Et le fait que cette chanson-là soit là, qui est parfaitement placée, ça fait en sorte qu'on comprend pourquoi il n'y a pas de musique dans le restant du film. Ça contribue à donner cette ambiance-là très authentique. Dès le début du film aussi, on sait où ça s'en va, c'est-à-dire qu'on voit la scène finale, si on veut, au début. Donc, c'est pas un film qui a plein de rebondissements. On connaît l'histoire, on fait juste vivre l'histoire. Donc, l'image, je vous ai trouvé une petite image pour vous résumer ce film-là. Donc, c'est comme observer ce qui se passe à l'intérieur d'une maison en regardant par les différentes fenêtres. Donc, on tourne de la maison et chaque fenêtre nous permet de voir un angle qu'on ne pouvait pas voir de la fenêtre précédente. Donc, on fait juste décrire la réalité des personnages. On nous montre leur vision, leur quotidien. Et c'est ça qui fait en sorte que j'avais continuellement l'impression de regarder un documentaire. Ce film-là nous entraîne dans cette réalité-là qui continue de nous suivre en sortant du cinéma, bercée par toutes nos émotions, mais également émerveillée par la fragilité de la vie. C'est un très beau film qui n'est pas difficile à voir. Donc, c'est pas un film rough. C'est un film qui est apaisant et c'est un film qui est authentique. Donc, le film Pupille, j'y donne un 9,5 sur 10. On va vraiment dans une ligne
comme note,
qui... dans une ligne qui que j'ai rarement vue. J'ai rarement vu autant d'authenticité dans une fiction. Donc, c'est vraiment une très belle réussite et je vois pas comment ça aurait pu être mieux fait.
9,5 sur 10. Parfait. Merci beaucoup, Mina. C'est excellent. Ça donne envie d'aller voir ce film. J'espère qu'il va être là encore un petit bout. Alors, super. Vraiment. Merci beaucoup.
Merci.
André-Jean, tu as été voir un film en trois dimensions.
Ben oui, pour le... même nos auditeurs qui ne le savent pas, moi j'enregistre en trois dimensions. Même aujourd'hui avec vous, j'ai gardé mes lunettes, donc ça ne sert absolument à rien. Mais on enregistre en 3D, juste pour vous le dire comme
ben
ça.
Ben oui, mais je comprends.
Mais le son est le même, vous allez vous en rendre compte. Écoutez, je suis effectivement allé voir pour vous, joyeux cinéphiles. Alita, l'ange conquérant, ou Battle Angel, pour certains. Hein, il y a eu d'ailleurs des poursuites. Là. En tout cas, les gens cherchent... C'est un monde d'argent, donc cherche toujours à gratter des sous. Sorti en 2019, bien sûr, on parle d'une science-fiction de fantasy américaine, bien sûr, sortie à la Maison du cinéma le 14 février, réalisé par le fameux Robert Rodriguez, le réalisateur américain bien connu, en fait, bien connu. Certains se rappelleront en 95 de Desperado, certains autres, comme moi, un peu plus fans du spécial ou horror-ish From Dusk Till Dawn en 96, hein, qui est un film qui a de l'air de rien un peu, où on suit des criminels comme ça, qui a même mené à une série plus tard, en fait, et on se rend compte que les criminels se retrouvent pris dans une espèce de bordel de vampires en fin de film. Non, mais c'est un peu à la Tarantino, c'est un peu bizarre de la manière que c'est amené, c'est vraiment le fun. Et c'est le fun, honnêtement, allez voir ça. Il a aussi fait les fameuses séries Spy Kids, hein, de 2001 à 2011.
Ah oui.
C'est aussi lui qui a fait Machete. Il y a eu deux. Ouais,
mais pas la version de Tarantino.
Il a fait les deux, en fait. C'est lui qui réalise dans les deux cas. Ouais, exactement.
Okay, j'ignorais ça.
C'est ça. Et bien sûr, la série Sin City de 2005 à 2014, plus récemment. Donc,
on est proche de Tarantino, là, c'est ce que je comprends. Là,
c'est le genre de bonhomme, à faire des affaires. Bon, à part les films pour enfants, le Spy Kids et peut-être Sin City, mais on est dans le funky. Sin City, dans le sens où on s'attend aux choses, mais dans le cas de Machete ou de From Dusk Till Dawn, ou même Desperado, il y a comme un petit côté Tarantino qui est intéressant à mon point de vue. Cela dit, on revient, hein, c'était Alita, l'ange conquérant que je suis allé voir, mettant en vedette, bien sûr, Rosa Salazar, l'Américaine, bien sûr, la Mexicaine Eiza González, l'Américaine Jennifer Connelly, Michelle Rodriguez, une Américaine, fait que j'ai tendance, Ed Schreine, qui est un Anglais, donc je prononce probablement très mal son nom, mes excuses à lui. Christophe Waltz, l'Allemand, et l'Américain Kian Johnson, bien sûr. Je vous amène, ou je vous invite à écouter avec nous la bande-annonce.
Ça te dérange que je ne sois pas tout à fait humaine?
Tu es la fille la plus humaine que j'ai jamais rencontrée.
De quoi tu parles?
Ido t'a trouvé dans la décharge. Donc t'as dû tomber de là-haut.
Je suis pas ta fille. Je sais pas ce que je suis.
Moi, je le sais. Tu es l'arme la plus sophistiquée de tous les temps.
Vous avez commis la pire erreur de votre vie.
Laquelle?
Vous m'avez sous-estimé.
Et voilà. Ooh. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous vous dites d'entendre une légère bribe de la bande-annonce, bien sûr, de Alita, l'ange conquérant. Je vous envoie le synopsis rapidement. En fait, c'est quelques siècles dans le futur. Alita, un cyborg abandonné dans un dépotoir de la Cité d'Acier, est retrouvée inconsciente par Ido, un cyberdocteur rempli de compassion qui la porte dans sa clinique. Lorsqu'Alita reprend conscience, bien sûr, elle n'a aucune idée de qui elle est ni du monde dans lequel elle se trouve. Comme elle réapprend à vivre dans le chaos de la Cité d'Acier, Ido tente de la protéger de son mystérieux passé. Donc voilà, un setting idéal pour un film de science-fiction. Et je vous dirais qu'à mon point de vue, c'en est un très bon, en fait. J'ai trouvé ça merveilleux en termes de... Bon, en termes d'imagerie, bien sûr. Hein,
on des a effets spéciaux.
Une qualité d'imagerie générée par ordinateur incontestable, à mon point de vue.
Oh, oui.
On est passé à un autre niveau. Hein. On se rappellera que le producteur est James Cameron. Donc,
Petit clin d'œil à Avatar.
On va lui dire. Oui. Et on peut lui dire carrément merci pour justement les effets CGI, comme je le disais, qui sont passés, selon moi, avec lui, à un autre niveau, finalement. Les effets 3D, bon, c'est pas pour rien que j'enregistre en 3D actuellement, m'ont beaucoup plu. Il y avait longtemps que j'avais vécu la chose et ça me rappelle maintenant on est rendu à un autre niveau complètement au niveau cinématographique. On avait un projecteur, hein, c'était pas comme les premières versions qu'on pouvait voir il y a 15 ans où ça te prenait deux ou trois projecteurs. Éventuellement, un moment donné, on va pouvoir rentrer dans des salles et vivre parmi les acteurs, je pense, ou en tout cas...
Écoute, ça pourrait s'en venir. Hein.
Réalité virtuelle.
On sait que James Cameron travaille sur une révolution du 3D, donc
déjà,
on va voir.
Déjà, avec ce qu'on a, révolutionner ce qu'on a, moi, je vous le dis, on est passé à... en tout cas... je pensais pas que ça me... Il y a rien de fatigant, en fait, dans le truc. C'est ça aussi que je voulais dire par rapport à l'effet puis aux petites lunettes qu'on nous fournit, bien sûr, avant d'entrer en salle. Il y a un petit moment, là, un petit 5 minutes d'adaptation où l'œil se place, puis bon, on peut le vivre pendant les bandes-annonces, mais on peut aussi, simplement, moi, je me suis intégré après les bandes-annonces là, dans la salle de visionnement et j'ai pas eu de problème, pas de maux de tête, hein, aucun inconfort. Donc, à ceux qui pourraient... des détracteurs qui pourraient dire « Non, j'ai peur de ça, j'ai facilement mal à la tête. » Allez-y quand même. Si vous êtes, dans les fans de science-fiction, parce qu'on est carrément là, hein, un scénario où... Est-ce que c'est le scénario ou est-ce que c'est le jeu d'acteur ou une combinaison des deux qui fait que j'ai été touché comme ça? Des situations émotives par les personnages sont venus me chercher assez facilement, je dois avouer.
Même le côté un peu adolescent, là, ça allait...
Je dois avouer que c'est... adolescent, oui et non, hein, parce que la cyborg elle-même, on se rendra compte dans le film qu'elle a, en fait, 300 ans,
oui.
Tu sais, c'est-à-dire... Non, mais dans le sens où elle réapprend à vivre. En même temps, cette innocence-là et cette possibilité, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est le scénario? On s'est tous intégrés des fois dans des groupes ou des situations, que ce soit de travail ou de hobby, où on connaissait rien de l'environnement dans lequel on arrivait, ni au niveau des gens avec qui on allait pratiquer la chose, etc. Et donc, cette espèce de « je réapprends à vivre le monde comme un bébé naissant, mais avec un corps d'adulte », c'est quelque chose auquel, en tout cas... On ne peut pas le revivre comme un cyborg, bien sûr, du moins pas pour le moment, mais ça s'en vient potentiellement, ça aussi, comme la révolution du 3D de James Cameron. On ne souhaitera pas de devenir des cyborgs tout de suite, mais quand même. J'ai trouvé que c'était facile, très, très facile de s'associer au personnage. Le rythme du film, de la situation initiale au dénouement est très plaisant. On va revenir là-dessus, moi, un peu plus tard dans la prochaine critique, j'ai l'impression. Mais je trouve que ça s'est très bien déroulé. On entre dans l'histoire sans trop pouvoir prévoir comment celle-ci va se dérouler non plus. C'est-à-dire qu'il y a plein d'indicatifs comme quoi on pourrait deviner aisément la suite. Mais non, c'est rarement ce qu'on pourrait penser.
Des surprises intéressantes, des twist plots.
Ça évolue pas comme on pourrait prévoir, tu sais, mais il y a des choses qui sont annoncées qui vont se passer à un autre moment. En tout cas, il y a des choses qui sont... Moi, le côté imprévisible, c'est dans le sens où je sais pas ce que va être la prochaine scène. J'ai été satisfait, là. C'était pas donné comme ça. Moi, personnellement, je n'hésite pas du tout à donner à ce film-là une cote de
9,5.
Hein? Donc, déjà, on était à deux fois 9,5.
C'est incroyable. Ouais, c'est bien, il faut monter un peu les notes, là, parce que tantôt, ça va peut-être...
Non, mais c'est... on va voir. En tout cas, allez-y. Alita, l'ange conquérant, un must, à mon point de vue.
Écoute, André-Jean, moi, j'ai vu aussi le film. On était dans la même salle, le même siège. Évidemment. Puis moi, j'ai une question pour toi parce que, on va se dire les vraies choses, là. La fin de ce film-là, nécessite une suite. Là.
C'est une ouverture.
On n'a comme pas le choix.
Il y a clairement une ouverture. Est-ce qu'on va la voir? Moi, En tout cas,
ben, oui,
en
même toi, temps, tu voyais la possibilité d'arrêter ça là. Moi, je voyais pas la possibilité d'arrêter ça là.
Non,
tout,
c'est
là.
Clairement une franchise qu'on veut faire. Moi, ça me semble évident.
Mais
là,
je veux dire, le scénario ne clôt pas.
Non, ben en fait, ben c'est-à-dire, on espère qu'il va avoir. Ça reste sur une ouverture. Je suis d'accord avec toi. Après ça, est-ce qu'on va tous les films qui restent sur une ouverture mènent pas nécessairement une suite. Hein? Il va sûrement avoir une évaluation très commerciale de la chose là, platement, parce que oui, effectivement, il y a possibilité de poursuivre, même si. Il y a quand même eu quelque chose de très marquant qui s'est passé, qui fait que moi, j'imagine difficilement la suite. Là. Alors qu'on...
Moi, j'imagine une suite évidente. Là.
Oui, non, mais la suite est facilement imaginable, mais il n'y a plus d'intrigue émotive, vraiment. Le personnage est devenu autre chose. C'est-à-dire, on a créé...
On ne sait pas. Hein. Bon, là, tout est possible, moi, j'ai envie de dire. Ben, là, c'est sûr qu'on parle à bâton. On parle de façon que personne ne peut comprendre, mais on ne veut pas vous révéler la chose, parce que quand même...
On ne veut pas vous vendre de punch,
mais... Mais tu sais, il y a plusieurs éléments. Là. On parle d'éventuellement visiter des nouvelles sphères, et on parle aussi de, possiblement, un personnage qui pourrait survivre ou non, à savoir.
Ben oui, en fait, inévitablement, je pense un personnage qui va pouvoir passer à une autre étape. Hein, ça. Mais là, on est en train de vouloir beaucoup trop en dire, en fait. Donc, allez voir le film. À mon point de vue, c'est un must. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça, je pense que platement, ça sera intéressant de voir ça, en fait. Est-ce que vraiment, ça sera seulement...
C'est basé sur un manga, là. Peut-être que déjà, la suite existe, là,
oui, mais est-ce que ça sera seulement un plat de calcul mécanique ou économique qui va nous amener à faire un second, hein? Parce qu'on se rappellera que, bon, je reviens avec James Cameron, là, mais on va voir finalement la suite de Avatar.
Oui.
Mais il y a eu plusieurs moments où on a dit « Ah, c'est maintenant que ça se passe, puis ça se passe pas. Puis c'est maintenant que ça se passe, puis ça se passe pas. » Fait que, tu sais, je me dis... Ça sera à suivre. Est-ce que vous allez, comme moi, trouver que ça en vaut tellement la peine que vraiment, on espère que... Moi, je vous dirais, sans problème, effectivement, comme tu le dis, j'irai le voir. Il y a un 2 de Alita qui sort.
Moi, j'irai aussi.
Il
n'y
a aucun problème.
C'est un excellent divertissement. Donc, voilà. Bon, OK, c'était ça pour ma question.
Ben, c'est parfait. Donc, je vous remercie. Je vous rappelle que c'est 9,5 pour moi sur 10. Allez voir Alita, l'ange conquérant.
Ben, merci beaucoup, André-Jean.
Merci à vous autres.
Vous écoutez toujours Ciné Brunch en compagnie de Jim Boulay, André-Jean Rouleau et Mélina Lopez-Nadeau. Et dans quelques minutes, on va s'adresser, en fait, dans une dizaine de minutes, on va vous parler et critiquer tous ensemble le film Répertoire des villes disparues, film québécois de Denis Côté. Et je sens que ça va être toute une discussion. Alors, si ça vous intéresse, avant d'aller voir ce film-là, je vous recommande fortement d'écouter cette critique commune qu'on va faire dans une dizaine de minutes à peu près. Mais sinon, d'ici là, moi, je vais vous parler d'un film un peu plus léger. Un film que j'ai été voir pour vous, le film Astérix et le secret de la potion magique. Donc, un film d'animation, une production française. C'est, en fait, le plus récent film d'animation d'Astérix. C'est écrit par Alexandre Astier, qui, je vous le rappelle, était le créateur de la série Kaamelott, mais aussi du film Astérix et le domaine des dieux, qu'il a co-réalisé et qui co-réalise encore une fois celui-ci avec Louis Clichy. Donc, on continue un peu ce qui a été fait avant, avec beaucoup de voix connues dans ce film-là et aussi dans l'autre. Surtout, si vous étiez un fan de Kaamelott, vous reconnaîtrez plusieurs voix, notamment parmi les voix, évidemment, Christian Clavier, qui joue l'acteur Astérix dans les films en prise de vue réelle, ben, conserve la voix d'Astérix dans ce film. Probablement, d'ailleurs, la seule voix qui n'a pas changé du tout depuis le début des films avec Gérard Depardieu. Depardieu, lui, qui cède sa place à Guillaume Briat pour la deuxième fois, donc avec le précédent film d'Alexandre Astier, dans le rôle d'Obélix. Aussi, vous reconnaîtrez notamment l'humoriste Élie Simoun. Bernard Allan interprète la voix du druide Panoramix, qui a une grande importance dans ce film-là. Mais... mon coup de cœur s'en va à la voix du chef du village, Abrara Coursix, qui est donné à Serge Papagali, nul autre que l'acteur qui interprétait le paysan Guitenot dans la série Kaamelott. C'est de toute beauté. J'avais pas remarqué, étrangement, dans le précédent film, mais dans ce cas-ci, on l'entend un peu plus, Abrara Coursix. Et honnêtement, c'est lui, c'est le personnage de Guitenot mis en Abrara Coursix. Si vous aimez Kaamelott et que vous aimez Astérix, vous allez réellement vous marrer avec cette chose-là. Un autre comédien humoriste qu'on entend dans ce film-là, c'est Alex Lutz, donc l'humoriste, et évidemment Lionel Astier, qui est le père d'Alexandre Astier, qui jouait aussi dans Kaamelott, donc le rôle de son beau-père. J'en passe encore plus d'un. Voici la bande-annonce d'Astérix et le secret de la potion magique.
fois, je ne me suis même tordu la cheville. Pas une fois. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique.
Quoi ?
Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui la confier.
Quoi ?
Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés ?
Je crois qu'on a des petites fiches.
Des petites fiches ?
C'est la petite fichette maison.
Impeccable !
J'ai des super nuls. Ceux-là, ils sont pas fichus de faire une soupe à l'oignon.
Ici, les mauvais, mais qui arrivent quand même à bricoler deux, trois trucs.
Qui sait ce qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main ?
Panoramique ?
Ah, bah oui, c'est fini, là. Oh non, moi, je pense que je devais être sur la fin.
Eh bien, oui, toujours sympathique à entendre. Vous avez entendu Elie Simon à la toute fin. Voilà, méconnaissable, hein, n'est-ce pas? Voilà, le film ouvre avec Panoramix qui cueille le gui dans les arbres avec une grande dextérité, mais fait quand même une chute importante et se blesse. Il se met dans la tête de trouver une relève et comme vous l'entendiez dans la bande-annonce, un jeune druide qu'il recherche, à qui il pourrait donner sa recette de potion magique, recette secrète, donc la potion magique qui donne une force surhumaine. Le village, évidemment, s'y oppose, mais rien à faire, le druide est déterminé. Et ils vont visiter, donc Panoramix et ses amis vont visiter toute la Gaule à la recherche du meilleur jeune druide. Évidemment, la plupart sont des incapables farfelus. Donc, il y a quand même beaucoup de matière pour s'amuser dans ce film-là. Et je pense qu'on vient, avec ce film-là, de moderniser Astérix d'une manière qui n'avait jamais été faite. Et là, je vais ouvrir une parenthèse parce que je suis un grand fan d'Astérix depuis le début et je vais vous dire, il y a eu plusieurs époques et plusieurs tentatives de modernisation d'Astérix. Parfois, on a été vers le drame, notamment avec le film Le coup du menhir, le dessin animé de 1989, donc qui était vraiment plus dramatique, où on allait vraiment plus dans les émotions, même la nostalgie et la mélancolie. Donc, ensuite de ça, 10 ans plus tard, quand on a commencé à faire les premiers films en prise de vue réelle, on est allé un peu dans le burlesque. C'était un peu absurde. C'était très, très, très léger, mais c'était un peu con. Donc, notamment le film Astérix contre César. Heureusement, Alain Chabat a ramené les pendules à la bonne place avec Astérix Mission Cléopâtre, qui donnait, lui, un hommage au travail original de Goscinny et Uderzo, tout en amenant le traitement dans en quelque sorte un film qui demeurait extrêmement drôle et de très bon goût. Et l'image que j'ai là, pour comparer ces styles-là, c'est que pour moi, les premiers films d'Astérix, avec Depardieu et tout ça, là, riaient un peu de la bande dessinée. Alors que le film d'Alain Chabat, Mission Cléopâtre, mm-hmm. lui, riait avec la bande dessinée. Donc, c'est un peu la différence. Il y en a un qui est plus hommage et l'autre qui est plus pour déconner, pour faire une comédie un peu burlesque, oui, un peu vide.
Ouais, on sortait quand même du, si je peux me permettre, là, Mission Cléopâtre.
Oui.
On sortait quand même, il y avait des hommages à des films autres.
Oui,
là,
mais c'était des petites coquilles, des petites subtilités. Mais
oui, mais ça restait dans le thème et dans le thème humoristique. Oui.
Mais oui, tu as fait raison, c'est Alain Chabat aussi.
Oui, c'est ça. Il fallait que ça reste un humour un peu cocasse, un peu n'importe quoi.
Oui.
Mais tu as raison, je trouve que c'était moins... c'était pas une risée.
C'était pas une risée, c'était de bon goût. Et c'est ce qu'Alexandre Astier, dans le fond, pour revenir à l'animation, avec le film Le Domaine des Dieux, qui a fait le film d'animation qu'il a fait en 2015, bien, il est revenu aussi à ça. Il a conservé un peu cette vision-là, un peu qu'Alain Chabat avait. Mais c'était extrêmement ambitieux et risqué de refaire un film d'animation d'Astérix. Parce que déjà, ça allait pas trop bien pour Astérix dans les derniers films. On sentait que, bon, on s'éloignait un peu de l'essentiel. Ouais. Lui, c'est un grand fan. Alexandre Astier est un grand fan d'Astérix. Et avec Le Domaine des Dieux, il a voulu faire un vrai hommage au film, au livre, en fait, parce que Le Domaine des Dieux est une bande dessinée qui n'avait jamais été faite en film. Et il l'a fait, il respectait vraiment bien l'histoire, l'essence de la bande dessinée, mais en s'appropriant complètement l'histoire d'un autre côté, en le mettant à sa sauce à lui. Et maintenant, pour revenir au film actuel, donc Astérix et le secret de la potion magique, avec les mêmes acteurs, même réalisateurs, même personnages que pour Le Domaine des Dieux, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne beaucoup de plaisir, certainement. C'est beaucoup moins sobre que le film précédent. Par contre, on est vraiment plus dans l'éclat et la sensation. L'histoire n'est pas basée cette fois-ci sur une bande dessinée originale, mais c'est une invention pure de la tête d'Alexandre Astier. On sent qu'il s'amuse beaucoup avec ce film-là, mais ce qui frappe le plus, c'est que c'est extrêmement moderne. Et comme je le disais plus tôt, c'est que le rythme du film est très rapide, pour ne pas dire vraiment très rapide. Donc, on a un rythme super vite. Et on a misé sur l'action dans le film, sur les mouvements rapides. Il n'y a pas vraiment de temps mort, il n'y a pas de moment où on s'arrête. Et pour être honnête, c'est un petit peu déstabilisant à mon goût. Dans Astérix, il y a toujours eu généralement des moments d'action entrecoupés de moments plus lents, de moments plus réflectifs. Et ici, pas du tout. On enchaîne les gags un après l'autre. L'humour, je pense que ça rend évidemment le film fortement exportable. C'est un film un peu américanisé par sa forme, compressé en 1h25. Franchement, j'aurais peut-être pris un petit 10 minutes de plus juste pour aérer un petit peu les gags et donner un peu plus de poésie à la chose. Mais bon, maintenant, dans la salle, la réponse était très bonne. Les gens riaient et malgré une légère barrière de la langue, en fait, du langage, étant donné que certaines expressions étaient typiquement françaises, il y avait un groupe d'enfants juste en avant de moi et ils sont restés concentrés tout le long du film et ont ri. Et c'était, à mon avis, une très bonne chose, c'est très bon signe. Maintenant, un dernier point d'intérêt sur ce film-là, c'est que pour la première fois, l'histoire est centrée sur Panoramix, donc sur un personnage généralement secondaire, plutôt que sur Astérix et Obélix. Et ça, honnêtement, c'est troublant. Parce que d'habitude, dans le film, les héros sont Astérix et Obélix. Mais dans ce cas-ci, c'est pas les héros auxquels on s'attend, normalement. C'est très intéressant. Je dis, bon, enfin, il était temps de... On avait un peu fait le tour avec Astérix et Obélix. C'est le fun de voir la psychologie de d'autres personnages et les enjeux de d'autres personnages. Et ben bon, c'était quand même très ambitieux. Mon verdict final, très drôle, très beau visuellement, même très beau, très, très, très beau. Rythme un peu rapide pour moi, mais une belle histoire solide et intéressante. Musique un peu weird, mais on reconnaît Alexandre Astier dans le style. amateur de Kaamelott, vous aurez d'ailleurs un petit clin d'œil à la série si vous écoutez bien pendant le film au niveau des effets sonores. Je donne 8,5 sur 10 à ce film-là. C'est un film que je reverrai sans difficulté, surtout à la vitesse que ça passe. Et surtout, c'est un bon film à voir en famille, mais aussi entre adultes, sans aucun problème. Donc voilà, Astérix et le secret de la potion magique, 8,5.
Oh, merci beaucoup.
Merci.
Merci. Maintenant, le moment de vous parler, de critiquer tous ensemble le plus récent film québécois, Le répertoire des villes disparues, film de Denis Côté. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que j'ai l'impression que ça va faire tout un débat, on va, parce que bon, on a été les trois voir le film pour vous, on va commencer par un petit synopsis, André-Jean.
Ben oui, une petite mise en bouche. Hein. Donc, déjà, faut le décrire comme... Comme ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est écrit sur ma fiche drame romantique américain, ce qui n'a rien à voir, bien sûr.
Toi aussi, t'as des petites fiches, hein? Ça marche
oui,
pas toujours.
Oui, la petite fichette. non, c'est ça. Exactement. Donc, un film québécois, bien sûr, réalisé par Denis Côté, hein, qu'on connaît pour Carcasse en 2009, Vic et Flo ont vu un ours en 2013, ou encore Ta peau si lisse de 2019. On aime ou on n'aime pas. Une brochette d'acteurs, on va dire québécois, hein, Robert Naylor, José Deschênes, Jean-Michel Anctil, Diane Lavallée, Rémi Goulet et Larissa Corriveau. Je pense qu'on peut même se permettre, à moins que vous ayez autre chose à dire là-dessus, d'aller voir ou d'aller entendre plutôt. Excusez-moi, c'est mes 3D qui me...
Ben oui, j'avoue, les 3D sont toujours en 3D.
Donc on va aller écouter notre bande-annonce.
Le village, c'est 215 personnes. Seulement 215. Et je connais chacune de ces personnes.
J'en doute pas, madame. C'est tout en votre honneur.
Vous vous appelez comment, déjà?
Yasmina Bouzidi, madame.
Puis c'est Gilbert qui vous... Vous venez de Montréal, vous, hein?
Oui, mais on m'envoie régulièrement dehors.
Ah, ben oui, c'est ça. On est en dehors, nous autres.
Ben, c'est pas ce que j'ai voulu dire.
L'humain s'adapte au pire coup, ma petite demoiselle. Les gens d'ici sont fiers puis reprennent déjà leur routine.
Eh bien, bande-annonce qui, à mon avis, est à la hauteur du film. voilà, merci André-Jean pour cette introduction.
C'est un plaisir.
On va le dire, hein, le film est, disons, librement inspiré du livre éponyme, donc « Répertoire des villes disparues ». Et on va à tour de rôle et on va faire notre petit jeu habituel roche-papier-ciseaux pour décider qui va commencer la critique. Mmh. Alors, à vos mains, prêt? Un, deux, trois.
Ah merde, on sort à trois ou... Non, mais... Ah oui, OK, toi, c'est la roche. Oui. Donc, la roche brise les deux ciseaux, c'est donc
Alors, ça
Jim.
Serait à moi de démarrer la chose.
C'est Jim qui commencerait.
Ben oui. Ouh, c'est dangereux, ça.
Non, c'est parfait, regarde. Bon, OK. Sois honnête, sois franc.
Ben, je vais être tout à fait franc. Moi, pour... D'entrée de jeu, je n'ai pas lu le livre et je ne le lirai pas. Mais, bon, on dit que Denis Côté s'est librement inspiré du livre. Permettez-moi de m'inspirer, en fait, d'inspirer librement ma critique de la profonde insatisfaction qui m'habite après avoir vu ce film-là. Écoutez, honnêtement, je... C'est pour moi, je vais pas faire de frivolité. Là. C'est un navet considérable, à mon avis. Je comprends pas que ce film-là soit en nomination à quelque endroit que ce soit. Le film est rempli d'une tension perpétuelle qui ne débouche sur rien. Pour moi, c'est comme un film d'horreur sans horreur et sans résultat. C'est absurde d'en être malaisant par moment. Il y a des scènes de dialogue, en tout cas, ça n'a aucun sens. Le jeu des acteurs... ne m'a pas impressionné. Il y a quelques acteurs qui jouent mieux que d'autres, mais notamment Jean-Michel Anctil, que je trouve bizarrement toujours bon dans les rôles dramatiques. Sinon, au niveau du langage, ça ne marche pas et c'est même pas cohérent entre eux. Donc, il y a des gens qui parlent avec un langage extrêmement soutenu, d'autres qui essayent de parler en langage plus familier puis ça marche pas vraiment. Des dialogues sans aucune pertinence qui servent à rien. Réaction des personnages pas crédible du tout. Tout le monde a l'air de s'en foutre totalement que le père est parti sans donner de nouvelles. Personne n'appelle la police. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de police dans le petit village parce que la mairesse n'est pas capable de gérer ça tout seul. Mais voyons donc, il y aurait la Sûreté du Québec, il y aurait des enquêtes. Il n'y a rien qui a du sens dans ce film-là. Et le film prétend défendre, et c'est peut-être ça qui me dérange le plus, en fait, on sent que le film veut défendre en quelque sorte l'isolement et l'autonomie des petits villages contre, par exemple, la grande ville avec des métaphores vaporeuses qui veulent rien dire. Mais dans le fond, on dirait plus qu'on ridiculise les villages en les rendant complètement déconnectés de la réalité du monde. Franchement, photographie quand même assez belle en général, je vais pas tout détruire de ce film-là, mais le style vieille pellicule là, qu'on a ajouté, l'espèce de filtre là, qu'on a mis de vieille pellicule qui donne l'impression que c'est un film qui date des années 60 ou 50, là, ben ça sert absolument à rien, la colorisation est drabe et sert absolument pas le film. Et à mon avis, dans ce film-là, je ne sais pas si vous voulez qu'on donne nos notes tout de suite ou on attend la fin. Ben, on parle tous et après on donne les notes ou on les donne.
Vas-y, vas-y pour ta note. Après ça, on déconstruira ta.
Ben oui, mais pourquoi pas. Mais moi, ce film-là, pour moi, ça sert absolument à rien. Je ne comprends pas que ce film-là soit en nomination dans des festivals. Je donne un 4 sur 10 à ce film-là. Et si vous voulez mon avis, c'est vraiment pas bon. Si vous voulez voir un film québécois, allez voir Une colonie à la place. C'est franchement meilleur. Donc voilà, désolé pour cette critique poignardante.
Regarde, tu as droit à tes opinions.
Mais
ben,
c'est ça. Alors, est-ce que vous voulez faire roche, papier, ciseaux à nouveau ou on y va en ordre?
Ah, ben André-Jean, moi, je te laisserai la parole, en fait.
Ben, en fait, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec. En fait, je suis totalement en désaccord avec ce que Jim a dit.
C'est une bonne chose.
C'est-à-dire qu'effectivement, je peux pas encenser ce film-là comme. Comme potentiellement, hein, au Berlinale, il le sera. Je lance ça dans les... Non, mais c'est parce que je viens de me renseigner. J'ai un agent que j'ai envoyé là-bas qui m'a appelé tout à l'heure et qui m'informe que le film a été très bien reçu au Berlinale.
Ah bon, c'est pas ce que j'avais compris, moi, ça. C'est bizarre.
Écoutez, il y a de très fortes chances, selon certains chroniqueurs, de s'en sortir avec un ours d'or, cela dit.
Mais voyons donc!
Oh! Mais Lina vient de se dévoiler un peu. Écoutez, je reviens sur ma perception de la chose. OK, on parle quand même d'un drame psychologique. Hein. On aborde les thèmes du deuil, du déni, du repli sur soi. Si on les voit comme ça, parce qu'il y a une opposition, je trouve, de personnages ou de silhouettes qui vont commencer à apparaître après un événement criant, hein, soit la mort du frère d'un des personnages là, qu'on va suivre, en fait, et qui finit par se dévoiler comme étant un suicide, en fait, selon ce qui est admis, mais en même temps, donc, c'est mis en situation-là par rapport à la mort, par rapport au suicide, l'isolement qui est vécu, moi, je trouve, dans les régions aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles. Si on reste dans un topo, parce que, bon, je pourrais être totalement honnête, moi, le rythme m'a un peu dérangé. Hein, c'est-à-dire que, surtout que Préalablement, moi, cette semaine, je suis allé voir un film qui s'appelle Alita, l'ange conquérant. Écoutez, rien les choses s'enchaînaient à un rythme phénoménal, un peu comme toi avec Astérix et Obélix, ou Astérix plutôt, le secret de la potion magique. Moi, dans mon cas, ce film-là, ça m'a un peu fatigué, mais en même temps, il faut se mettre dans un autre état d'esprit. On avait parlé avec, on en parlait tout à l'heure, hors d'onde, là, avec Jim, au niveau de Impetus. Même principe, c'est-à-dire c'est un film qui va nous amener à la réflexion et qui demande de prendre une pause. Cela dit, il y a des choses qu'on voit dans le film et on n'a pas vraiment le temps de... Comment je pourrais dire? C'est un film à jongler avec lorsqu'on sort après ça avec les collègues avec qui on est allé le voir pour aller prendre un café ou un thé, jaser de... Parce que ça va amener des réflexions qu'on ne peut pas avoir durant le film. C'est-à-dire que c'est pas nous autres qui contrôlent le rythme, même s'il est lent. Moi, j'ai pas trouvé que c'était suffisant pour pouvoir tout de suite comprendre « Ah, OK, la présence de ces des silhouettes qui commencent à apparaître, c'est que ça m'amène à vivre ça, en fait, ou etc. » Pour moi, c'était pas clair. Je voyais que c'était utilisé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va voir apparaître ces gens-là qui, au début, n'ont pas vraiment de visage, c'est-à-dire qu'ils portent des masques, c'est surtout des enfants. Puis à un moment donné, on voit carrément les gens. Et bon, je ne vais pas vendre complètement les punchs du film, mais il y a une raison à ça. Et c'est pas simplement quelque chose
En même temps, la raison n'est pas claire, là.
Non, c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire que on est tous, tôt ou tard dans notre vie, pas tous, mais bon, certains d'entre nous, dans notre vie, on a été confrontés à des réalités comme le suicide d'un ami ou d'un proche, ou la mort de quelqu'un qui est proche aussi. Puis ça, c'est... qu'est-ce que ça nous amène à vivre? C'est très personnel, mais dans ce film-là, je trouve que c'est une façon, c'est pas une zone qu'on aime s'approcher de. C'est pour ça peut-être que ça nous refroidit beaucoup, mais c'est vers là qu'on veut nous amener. C'est-à-dire que le clin d'œil dans ma tête, les longueurs même dans un certain sens, et l'absence sonore, comme Mélina en parlait, là, de la trame sonore de ton film plus tôt, finalement. Ouais. C'était super le fun, puis le silence a des fois une fonction qui est très intéressante. Moi, je l'ai vu là aussi. C'est-à-dire que ça devient lourd un moment donné. Non, mais un moment donné, c'est juste le vent. C'est l'hiver. Moi, le niveau de langage ne m'a pas vraiment dérangé non plus. C'est-à-dire que ça rajoute, je trouve, à la crédibilité. Tu sais, le thème, c'est vraiment un drame psychologique sur lequel on va aborder des sujets que personne ne veut aller voir normalement. C'est-à-dire, c'est quoi notre acceptation de la mort, etc. T'sais? Puis après ça, ben, le setup ou le contexte dans lequel on vit ça, c'est une ville en région. Hein? Puis même, c'est nommé durant le film, puis dans la bande-annonce, on l'a entendu. C'est-à-dire, il y a cette espèce de relation entre les grandes villes et les régions qui sont comme hors de la zone. C'est-à-dire que... Et puis pourtant, on connaît tous aussi, sinon je vais vous en présenter, des gens qui vivent en région ou dans des petits villages. Ils vivent l'isolement est là en permanence dans ces gens-là. Puis c'est autant entre eux, entre voisins, qu'entre amis. T'sais, je me faisais une réflexion tout à l'heure où je me disais que à travers ces scènes-là et ces longueurs-là, finalement, on vit la solitude qu'on a face à nos voisins, face à l'étranger de l'autre bord de la rue, même à Sherbrooke ici ou à Montréal, peu importe. La solitude qu'on vit par rapport à l'incompréhension qu'on peut avoir avec certains interlocuteurs sur Internet ou même dans notre couple, la confrontation qu'on a avec notre profonde individualité, je trouve. Là, je vais loin peut-être, mais tu sais, Non, mais c'est que ça m'a amené à toucher une zone que malheureusement, moi aussi, plus tôt cette année, j'ai été confronté à la mort un peu personnellement. Et ça m'a... Je comprends que c'est une zone inconfortable. Je ne suis pas en train de te dire que c'est un chef-d'œuvre, hein, loin de là, mais parce que moi, le rythme m'a beaucoup dérangé. C'est-à-dire que dans ma tête, on aurait pu nous introduire ça plus rapidement un peu.
Ben, il aurait pu avoir une histoire qui se tient aussi. Là.
L'histoire se tient. Tu es confronté à une mère qui vient de perdre un de ses fils. L'autre fils, ben, visiblement, il y a un contact pas difficile, c'est-à-dire qu'il est plus près de sa mère un peu. Le père, lui, est-ce que c'est vraiment le père ou le conjoint successeur dans ce couple-là? On ne sait pas.
C'est le père, mais...
Oui, ça semble être le père parce qu'il ne le prend jamais, il ne l'exprime pas. C'est ça l'affaire, c'est que si tu le suis, c'est hantile.
Mais ça aurait pu faire un film intéressant. Le problème, c'est tout le reste. Mm-hmm. Et malheureusement, tout ça aurait été réglé en 5 minutes, là, je veux dire, toute cette histoire-là. Et le reste du film, c'est juste des affaires qui... En tout cas, à mon avis, on va laisser Mélina... Mais t'as pas donné ta note, André-Charles, m'excuse.
Non, mais Mélina, moi, j'y vais pour un 8.5. J'y vais pour un 8.5 parce que c'est pendant le film, je te dis, j'ai trouvé ça lourd. Mais à la fin... Ça m'a fait venir plein d'idées puis plein de réflexions sur un thème qui est, on va se le dire, là, c'est vachement inconfortable, mais Mais je peux pas dire que c'était non, pas ça le thème,
ça,
en fait.
Tant mieux si ça t'a...
Je pense que, mais regarde, atteint. Après ça, de là à dire, est-ce que ça mérite un ours d'or au Berlinale? J'irai pas jusque-là, disons.
Je sais pas. Peut-être un ours brun. Alors, Mélina, à toi.
Ben moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à embarquer dans le film, en fait. J'ai juste pas embarqué. J'ai manqué de crédibilité, si on peut dire, devant moi, même si c'est hautement... je veux dire, il y a des choses bizarres qui se passent dans ce film-là. Mais c'est surtout au niveau du scénario que j'étais dérangée, dans le sens que je relevais de nombreuses incohérences au niveau du scénario, au niveau des dialogues, des gens qui disaient des trucs à des moments où ça faisait aucun sens. Donc, j'ai pas embarqué dans le film. J'ai quand même beaucoup de difficultés avec ces films-là qui sont hautement métaphoriques parce que je pense que c'est dur de faire des films comme ça. Ça demande d'être vraiment pile dessus pour que les gens réussissent ou du moins qu'un pourcentage de gens réussissent à comprendre la métaphore. Donc ça, c'est ça. J'ai eu extrêmement de difficultés. Je trouvais que ça faisait pas de sens. Les dialogues. Il y a une phrase de dialogue à un moment donné là, que c'était
la vieille bière, maison,
là, oui. Dit « Moi, la bière, ça me fait péter puis dormir. » Puis le gars, il dit « Ben, dors. » Ça n'a juste aucun sens, tu sais.
Ça sert à rien. C'est, tu sais pas pourquoi c'est là.
Et en même temps, c'est la relation d'un boss et de ses deux employés dans un moment où, visiblement, le boss, lui, si on se rappelle le début de la scène où il a envoyé un de ses deux employés en haut, pour quelle raison? Puis là, il dit « Pis ». Puis l'employé qui est au deuxième, qui regarde l'état totalement inhabité des lieux, finit par répondre « Ben, il y a rien, tout est correct. » Puis il redescend. Donc, c'est un moment où cet individu, le boss en tant que tel, a vu quelque chose dans cette maison-là, mais il l'a jamais dit, alors que sa femme en a déjà parlé, elle trouvait que c'était lugubre, etc. Lui, il embarquait pas au début. Puis là, après ça, tu sais, vous comprenez? Moi, dans ma tête, c'est pas innocent. Ouais. C'est-à-dire que pourquoi, bon, la phrase sur la bière et le pet et le dormir, moi, ça, je pense, c'est nous ramener... C'est ça qui est difficile, je suis d'accord, là. C'est que ça nous ramène à la petite réalité quotidienne de ces gens-là, mais après ça, on passe dans le métaphorique à tout bout de champ de façon impromptue, puis ça, c'est effectivement difficile à suivre.
Très difficile à suivre. Et toute la question des morts, des gens qui sont là, bon, j'ai eu de la difficulté à embarquer. Je trouvais aussi que certains acteurs, bon, je suis pas très d'accord avec Jim qui a dit que les performances des acteurs, il y en avait qui étaient correctes. Moi, j'ai...
T'en as pas trouvé aucun.
Ils ont trouvé tous pourris.
Mais je trouvais ça pas sur la...
Mais c'était pas crédible.
Je trouvais que dans certains cas, c'était surjoué. Dans le cas de la mairesse, notamment, je trouvais ça beaucoup trop exagéré. C'est-à-dire qu'on dirait que les yeux... je sais pas, elle ouvrait vraiment beaucoup les yeux. Avez-vous remarqué quand elle parlait? Elle ouvrait vraiment beaucoup les yeux. Puis là, elle s'exprime... Je sais pas, j'embarquais pas.
C'est ça.
Le plan à la caméra à l'épaule, il est difficile pour ça parce que c'est tout le long comme ça.
Puis en plus, oui, ça, en plus, ça, t'as le Parkinson là, quand tu regardes ce film-là. C'est un peu fatigant. Puis des fois, honnêtement, je sais pas si c'est si pertinent que ça. Tu sais, des fois, tu veux créer cette nervosité-là. Puis là, j'avais l'impression qu'au contraire, un plan fixe avec justement la neige dehors, le vent, puis tout ça, aurait été beaucoup plus payant. Et le choix photographique était, des fois, était très, très, très beau. Et des fois, franchement, n'allait pas là du tout. Donc, un peu amateur à mon goût.
On sentait qu'il y avait des images. Je sais pas si vous avez senti ça. Moi, j'ai senti qu'il y avait des images qui avaient été ajoutées qui n'étaient pas... comme des images que quelqu'un d'autre avait tournées. Il y avait comme un blend d'images que je trouvais qui fonctionnait pas vraiment. Mais c'est ça. J'ai pas embarqué.
Fait que tu donnerais combien?
Oui. Bah, je donnerais pas de notes, en fait. J'ai juste zéro embarqué, en fait. J'ai vraiment pas embarqué. Je trouvais qu'on commençait dans des pistes qu'on finissait jamais, donc ça m'a beaucoup déplu.
Puis la fin est pas extraordinaire non plus.
Non, c'est ça.
Bon, en tout cas, mais on n'a pas tous le même regard là-dessus. Donc, on rappelle nos notes. André-Jean, tu avais donné 8,5.
Oui.
J'ai donné 4 sur 10.
Mélina s'est abstenue.
Donc, voilà, c'était la critique du film Répertoire des villes disparues. J'espérais, chers auditeurs, que ça allait vous orienter, mais visiblement, vous êtes toujours dans le
dilemme. Allez-vous faire votre
idée,
c'est ça
que ça veut dire. Alors voilà, merci à tous d'avoir été là. C'est déjà la fin de cette édition de Cinébrunch. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 11h, en rediffusion les mardis à la même heure, ou sur notre plateforme de balado, donc soit sur votre téléphone intelligent, soit sur notre site web cinébrunch.com. Et allez nous faire un petit coucou sur Facebook si ça vous tente, avec la page Cinébrunch. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Bonne semaine.